Saint-François Xavier, 1506-1552. La famille de Xavier dans la Navarre médiévale. Voici une conférence de Béatrice Leroy, professeure à l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Conférence enregistrée le 19 avril 2006 lors d'un colloque organisé à l'occasion du 5e centenaire de la naissance de Saint-François Xavier. La famille de Xavier dans la Navarre médiévale. Béatrice Leroy.
La famille. C'est l'histoire d'un château, peut-être. C'est l'histoire de trois familles qu'il faudrait voir dans quelques phrases pour montrer comment, au fond, dans un royaume qui n'est plus qu'un chantier en démolition, et ce royaume qui n'existe plus, François-Xavier s'en va et part à Paris, puis dans les terres à évangéliser. Est-ce qu'il n'y aurait plus rien à faire en Navarre dans les années 1510? Enfin, nous allons nous poser la question. Fixons tout de suite la carrière du père de François Xavier pour remonter par la suite au long des générations. Juan de Raso ou de Jaxu. Juan de Raso, le père de François Xavier, qui est docteur en loi, en droit, si vous voulez, de l'Université de Bologne, et qui est président du conseil de la reine Catherine de Navarre, président du conseil royal. Juan de Raso, donc, en 1508, est ambassadeur des souverains Catherine et Jean d'Albret auprès du roi de France Louis XII pour implorer, pour lui demander de ne pas envahir ce qui reste de la Navarre, 1508. 1510, il est également ambassadeur avec d'autres personnalités auprès des États du Béarn pour leur demander une action commune, une solidarité contre une double conquête, la conquête des Français par le Nord qui veulent les États de Béarn, la conquête des Castillans par le Sud qui veulent évidemment la prise de la Navarre. 1512 encore, alors que presque tout est consommé, Juan de Raso va à Burgos avec un ecclésiastique à ses côtés, demander à Ferdinand le catholique d'arrêter la conquête qui doit en terminer pour le royaume de Navarre. C'est un diplomate, c'est un juriste, il est choisi par le roi et la reine et il a une fonction à la cour. Voilà peut-être ce qu'il faut retenir sur cette famille, sur ces familles qui s'entrelacent dans la possession du château de Xavier. Château de Ravière, château de Savière, château d'Essavière, tel qu'on le lit dans les premiers documents du XIIIe siècle, nous allons en voir un. Donc ce château de, appelons-le, de Xavier, comme nous faisons maintenant, peu importe. C'est en effet l'histoire de trois familles nobles qui représentent ce que l'on peut appeler désormais, depuis les travaux de Salvador de Moxo de la première moitié du XXe siècle, la nouvelle noblesse dans les régions espagnoles. La nouvelle noblesse, une noblesse certes, noblesse de sang, mais peu fortunée, d'assez bas étage à l'origine, mais garante évidemment de son sang noble, qui se met dans la clientèle de très grands chefs de lignage qui, dans les régions basques castillanes, sont appelés les parientes mayores, les chefs de clan. Et donc, maîtres de grands lignages dans la Navarre et le reste de l'Espagne, qui peu à peu, par les mariages et par les héritages, s'agglomèrent à ces grands clans nobles plus haut placés qu'eux dans l'échelle sociale, et qui, par leurs études et par leurs réussites militaires, et par toutes sortes d'héritages aussi, entrent peu à peu donc dans ces lignages, et donc je m'approche trop, et ainsi entrent à leur tour dans les offices de cour et dans ces fonctions militaires autant que d'administration, et un jour ou l'autre se trouvent eux aussi à la tête de ces lignages en les remplaçant. Voilà, en quelques phrases, si vous voulez, donc brosser rapidement l'ascension de ces membres de la nouvelle noblesse. La première famille qui reçoit le château de Xavier des mains du roi est la famille de Sada. C'est Martín Aznárez de Sada, la famille des Sada à l'origine, qui reçoit du roi de Navarre en 1251 la garde d'un château royal, qui est donc ce château de Xavier. Ce château de Xavier qui fut aragonais, mais la Navarre, je ne vous fixe pas les frontières de la Navarre, vous la connaissez toutes, cette Navarre, vous êtes tous des Navarrais ou des voisins de la Navarre. Au XIIIe siècle, très petit royaume, très petit état, coincé en quelque sorte entre la très grande couronne d'Aragon et la désormais très grande aussi Castille, mais possédant la maîtrise des deux versants du col de Roncevaux, donc ayant cette indentation dans le nord qui est aujourd'hui notre Basse-Navarre et qui, à l'époque médiévale, est intitulée Outre-Port depuis Pamplune, qui est la capitale, Ultrapuertos, la châtellenie de Saint-Jean, et donc une Navarre stratégique par laquelle tout le monde passe en Occident pour aller livrer bataille en péninsule ibérique, pour aller commercer en péninsule ibérique, pour aller pérégriner en péninsule ibérique, ce qui est peut-être le principal propos aujourd'hui, donc cette fonction absolument spirituelle, mystique, morale de ce royaume de Navarre. La famille de Sada est une famille toute proche de Sangüesa, à la frontière orientale du royaume, tout proche du cours de l'Aragon, qui est lui-même un affluent de l'Èbre, qui passe à Tudela, dans le sud de la Navarre. Donc, l'un des foyers nobles qui garde ce cours de l'Aragon, des gens de l'est de la Navarre. Et il se trouve que les Sada, donc bons Navarrais de l'est de la Navarre, étaient châtelains d'un château dans la garde royale, tenu en fief du roi, des alentours de Estella, le château de Ordóñez. Or, en accord avec le roi en 1251, ils remettent dans la main royale, je prends les termes de la vie féodale, ils remettent dans la main royale leur château d'Ordóñez de Estella, demandent au roi un château plus proche de leur lieu d'origine et gardant la frontière, et le roi leur confie en fief ce château de Sada, ce château de Rabière, pardon, qui se trouve tout proche donc de leur lieu d'origine. Rabière avait été confié en gage par le roi d'Aragon au terme d'un accord de diplomatie internationale dans les années 1220 au roi Sanche le Fort, qui lui-même meurt en 1234. Ce château était donc gardé par le roi de Navarre, vous voyez, juste à la frontière. Il a été aragonais, il est devenu navarrais dans les années 1220-1225. 1234, c'est le neveu de Sanche le Fort, le comte de Champagne, qui est fils de Blanche de Navarre, sœur de Sanche le Fort. Or, les héritages des femmes sont absolument préservés dans les États ibériques qui ne connaissent pas la loi salique. Et c'est ainsi que ce comte de Champagne, Thibaut IV de Champagne, devient Thibaut Ier, roi de Navarre. Et c'est lui qui, en 1251, confie ce château royal en fief à Martin Aznarez de Sada. Pour tous ceux qui écoutent l'espagnol, qui lisent et qui le comprennent, voici les phrases de cet engagement en fief. C'est une très belle langue. C'est la première formation de cet espagnol tel qu'on l'écrit désormais dans la cour de Pamplune, car la langue écrite très vite est l'espagnol qui prend le pas, même à la cour des comtes de Champagne, même à la cour des rois de France et de Navarre, qui prend le pas sur le français. Je vous en cite simplement quelques phrases. Et nos don Tibalt, nous, le roi Thibaut, etc. Damos et otorgamos, en cambio, a don Martín Aznarez de Sada, et a dona María Pérez, su mujer, et a sus herederos, et a su generación, a saberes, nuestro castillo de Esavier, et la villa, et la abadía, con décimas, y con todas sus pertinencias y todos los derechos que nos llevemos y debemos haber, y piezas, y vinas, y herederos, y yermo y poblado, montes y agoas, y pacimientos, y hombres y mujeres, y todos los derechos que nos llevemos y debemos haber, por tener y mantener por secula cuncta, con todas sus entradas y sus escidas,
d'abismo entró al cielo con las saínas por Orgoïs, etc. Voilà, donc une entrée en fief. Et cet acte de prestation d'hommage qui prête hommage Lige, sous service militaire, à cheval et en armes, et qui, en plus du château royal, qu'il doit tenir donc dans la garde royale, reçoit une mesnada, c'est-à-dire une contribution financière qui en fait un mesnadero de roi, donc il entre dans la mini royale, il reçoit même une double mesnada, 40 livres, la mesnada simple est de 20 livres, il doit lui-même, à la première convocation royale, partir à cheval et en armes dans les armées du roi, accompagné d'un autre cavalier, donc armé pour l'équivalent de 20 livres. C'est typiquement un engagement féodal tel qu'on le lit au fil des générations dans ce royaume de Navarre, mais tel qu'on peut le lire au fond dans tous les royaumes d'Occident. Et tous les successeurs des Sada qui s'appellent Martin, Aznar, Rodrigo, Roberto, très vite aussi, Pero, et Juan, et Miguel, etc. Donc, recopient, reprennent dans leur acte de prestation d'hommage le texte de 1251. Voici peut-être l'essentiel. La famille de Sada tient donc le château de Xavier, Xavier, donc qui deviendra Javier avec la rota qui se forme à partir du XVIe siècle, avec cette prononciation, mais qui peut s'écrire avec un S, un I, etc. Donc, tient dans la garde royale. Mais ceci, dans l'administration des comtes de Champagne, puis roi de Navarre, puis ce royaume de Navarre qui passe au roi de France et roi de Navarre par héritage, et au XIVe siècle, au comte d'Évreux et roi de Navarre, encore par héritage. Ce sont des détails qui nous entraîneraient trop loin. Il faut savoir que nous sommes, depuis le XIIIe siècle, dans l'orbite française, royaume espagnol, de par son droit, de par son fuero, de par son peuplement, avec toutes les composantes sociales que l'on trouve dans un royaume ibérique, mais évidemment dans la politique pro-française, et tout au moins donc dans les intérêts français qui sont défendus par les comtes de Champagne, par les rois de France et par les comtes d'Évreux qui ont une politique plus autonome, puisque Charles II a été adversaire très déclaré du royaume de France et a plutôt préféré l'alliance anglaise au moment de la guerre de Cent Ans. Mais cela aussi, c'est une autre histoire. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que ces rois qui ont leurs intérêts en France traitent la Navarre comme une sénéchaussée française, la gouvernent de façon très remarquable. Et l'équipe de tout un appareil militaire, bien sûr, mais surtout administratif, avec des officiers aux comptes, avec une cour des comptes qui est créée en 1365, avec une cour royale qui compte des notaires de la cour, des alcaldes de la cour, des procureurs, donc une infrastructure extrêmement développée, un suréquipement administratif pour ce très petit royaume qui fait au fond de ce royaume de Navarre une sorte de modèle d'administration et surtout qui permet aux Navarrais d'entrer dans le service royal. C'est une politique que l'on voit suivre, surtout avec les rois du XIVe siècle et XVe siècle, les Évreux Navarres, car il y avait eu bien sûr une politique de nomination d'officiers français dans la Navarre du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle. Les châtelains étaient français, les merinos qui tenaient les merindades, c'est-à-dire les officiers régionaux, responsables devant le roi. La plupart des gouverneurs étaient des Français. Désormais, à partir du XIVe siècle, systématiquement, c'est une nomination de Navarrais. Tous les Navarrais qui veulent servir par les armes, bien sûr, et on en a toujours besoin, nous allons y revenir, mais aussi dans l'administration des villes, dans l'administration des provinces, dans la garde des châteaux, dans les comptes de la cour, dans la justice, dans les finances, très important, tous les officiers du roi au XIVe et au XVe siècle sont navarrais. Tous ceux qui ont un nom, qui ont un titre, qui ont une fortune terrienne quelconque qui leur permet de faire des études ou de se présenter à la cour, d'avoir un cheval et des armes, d'avoir une fonction sociale, ont une place dans l'administration royale. C'est ainsi que très naturellement, dans un mouvement qui est donc à observer et que l'on donc peut rappeler maintenant, les sadas jusqu'à la fin du XVe siècle. Le dernier très grand sada est Pedro de Sada, qui est alcalde de la cour et qui est donc l'un des grands juristes de la cour. Donc tous ces sadas ont tenu bien sûr le château de Xavier, d'abord jusqu'au début du XIVe siècle en fief du roi, puis comme c'est inévitable aussi, peu à peu, ont transformé cette garde en fief en une possession familiale. Ils en ont fait leur chose, leur château, et au fond tout le monde en a été ravi, car c'était une garde de frontière dans la charge de ces châtelains, qui sont par ailleurs extrêmement fidèles du service du roi, et en même temps alcalde de la cour, c'est-à-dire donc dans la juridiction, notaire de la cour, dans les comptes aussi, et très engagé donc dans ce service royal, extrêmement fidèle. On les voit vraiment à toutes les générations, dans tous les offices de la cour. Voilà, on pourrait les suivre, en effet, de génération en génération. À côté d'eux, les Aspilcueta, qui remplissent à peu près les mêmes fonctions. Et puis très vite aussi, les Yasso, Jasso, Jaxou, nous allons prononcer à la française, si vous voulez, Rasso, comme on dit désormais en Espagne, qui, eux aussi, sensiblement, avec peut-être un temps de retard par rapport au Sada, mais qui suivent donc ces mêmes strates de la nouvelle noblesse et ces mêmes fonctions, donc remplissent ces fonctions aussi. Les Aspilcueta sont du Val-de-Bastane, ils sont du lieu dit Apaloa, où il y eut jusqu'à l'époque contemporaine des pèlerinages, car ce serait dans la petite maison de Apaloa, qui est devenue donc un ermitage, que aurait été conçu, il faut parler au conditionnel, François Xavier. Donc les Aspilcueta, qui sont eux aussi châtelains de Saint-Jean-Pied-de-Port, donc vous voyez, depuis le Val-de-Bastane, qui tiennent aussi des fonctions originaires de cette région du nord de la Navarre. Les Sada étaient, eux, du Val de l'Aragon, mais les Aspilcueta sont de l'Outreport et sont donc très installés dans la région de Saint-Jean-Pied-de-Port et des alentours, mais en même temps gardes de château des alentours de Pamplune, dans la Merindad des Montagnes, et qui ainsi, donc, par les armes autant que par la juridiction et les offices de cour, sont donc dans les offices. La fille... En 1465, la fille de Pedro de Sada, Maria de Sada, Maria Arznarez de Sada, épouse, elle est la seule héritière de son père, et elle transporte l'héritage, car la fille hérite donc, elle épouse Martin de Aspilcueta, et c'est ainsi qu'elle lui donne l'héritage du château de Xavier, donc qui, pendant une vingtaine d'années, entre, vous voyez, par la femme, par la fille, dans la famille des Aspilcueta. Mais, très vite après, c'est le troisième lignage, qui est donc très voisin et très engagé aussi dans ce même service, qui est le lignage des Jaxou, puisque la fille de Martin de Aspilcueta et de Maria de Sada, qui s'appelle également comme sa mère Maria, mais enfin peu importe, Maria de Aspilcueta y Javier et de Xavier, épouse Juan de Rasso, et dans, ce sont les parents de Miguel, de Juan, de Francisco, de Maria et de Madalena, qui sont donc les héros de cette journée. Les voilà donc dans ce château, château de Xavier, qui est un nom de château, qui n'est pas un nom de famille. Pendant longtemps, ça n'est pas un nom de famille, c'est le nom du château, mais qui est au Sada, qui est au Aspilcueta et qui est donc au Jasso. Les Raxou, où Raxou se trouve à côté de Saint-Jean-le-Vieux, Jaxou et Jasso sont eux aussi donc dans la châtellenie des montagnes, eux aussi très engagés dans le service royal, et enfin donc ces trois familles agissent pour le service du roi dans une époque qui est l'époque des désastres de la Navarre, l'époque du XVe siècle, l'époque où la Navarre se déchire en guerre civile et où, profitant de cette guerre civile, les grands royaumes voisins entreprennent donc la conquête de ce petit royaume. En effet, guerre civile, La fille, seule héritière de Charles III de Navarre, Charles III d'Évreux-Navarre, qui meurt en 1425, Blanche de Navarre, épouse, en seconde noce, mais peu importe, Jean d'Aragon, qui, en 1458, devient roi de la couronne d'Aragon, Jean II d'Aragon, et qui succède à son frère, Alphonse V le Magnanime, qui a été un très très grand souverain de la couronne d'Aragon, qui a conquis le royaume de Naples, qui a transformé tout le bassin occidental de la Méditerranée en un lac aragonais. C'était déjà très largement amorcé, mais il l'a achevé. Et Jean II, son frère, lui succède, Alphonse V n'ayant pas eu de successeur légitime. Jean II d'Aragon est très très engagé dans les affaires catalanes, les affaires du royaume de Valence, les affaires de la Sicile, les affaires du royaume de Naples. Jean II se trouve par sa femme roi de Navarre. On l'appelle tantôt Jean de Navarre, Jean de Trastamare, car c'est la branche des Trastamare d'Aragon depuis 1416, et Jean donc d'Aragon, de Catalogne, de Valence, etc., etc. Jean II devrait laisser le trône de Navarre, c'était dans le contrat de mariage, au fils qu'il a eu de la reine de Navarre en titre, Blanche de Navarre. Cette Blanche de Navarre meurt en 1444. Le couple a eu deux filles et un fils, Blanca, Léonore et Carlos. Carlos a le titre de prince héritier de Navarre, c'est-à-dire prince de Viana, Carlos de Viana. Carlos de Viana, qui est très connu, qui a écrit des chronique en Navarre et qui a été un prince très malmené dans tout le XVe siècle. Carlos de Viana revendique son droit à la couronne de Navarre. Il devrait l'avoir dès la mort de sa mère. Son père ne le veut pas. Sans doute, Carlos de Viana n'avait pas la tête politique. C'était un poète, un écrivain, un érudit, un humaniste. Mais ça n'était pas un politique. Et c'est ainsi que Jean II, son père, Jean II d'Aragon, etc., préfère réserver les droits à la couronne de Navarre à sa fille, qui est une excellente tête politique, Léonore de Navarre, etc., et qui est mariée à Gaston IV de Foix-Béarn, de Foix-Grailly, cette dynastie du XVe siècle qui a relayé l'ancienne dynastie de Foix et Béarn, si bien qu'elle est donc, par la volonté de son père, héritière, elle va être reine pendant 15 jours, mais en tout cas donc régente, etc., héritière de ce royaume de Navarre, mais en même temps, par son mariage, donc vicomtesse de Béarn et comtesse de Foix, ainsi que dame de la Bigorre, toute une série de maîtrises sur le versant septentrional des Pyrénées. Depuis très longtemps d'ailleurs, les Foix-Béarn regardaient vers la Navarre, essayaient de s'installer en Navarre. Depuis plusieurs générations, il y avait eu des essais de mariage et des mariages réels, donc pour en capter l'héritage, ce qui était donc tout l'objectif de ces Foix-Béarn. Léonore de Navarre, de famille aragonaise et navarraise, mariée à Gaston IV de Foix-Grailly, qui lui-même est un très grand homme de l'époque de Charles VII, puis de l'époque de Louis XI, et très grand acteur de la reconquête française au moment de Charles VII, puis de la cour de Tours de Charles VII, et à la fois ami de Charles VII et de Louis XI, ce qui est considéré comme un exploit au XVe siècle. Donc, Gaston IV de Foix-Grailly, très ambitieux, veut absolument que sa fille Léonore tienne des droits en Navarre. Mais la Navarre s'est partagée en deux, pour faire simple. C'est-à-dire que de château à château, de vallée à vallée, de petite province à petite province, on est soit pour Carlos de Viana d'abord et pour Jean II d'Aragon. Mais Carlos de Viana meurt en 1461, la guerre civile continue, soit pour le prince de Beaumont, qui prétend à l'héritage lui aussi, et qui descend d'un bâtard au XIVe siècle, qui est devenu comte de Lérine, très installé aussi en Navarre, et qui veut la Navarre, donc soit pour le prince de Beaumont, soit pour la famille de Gramont, qui tient pour les droits du roi, les droits de Léonore, les droits des Foix-Grailly, je dirais la branche légitimiste contre des adventices que sont les Beaumont. La Navarre se scinde, c'était déjà scindé entre Carlos de Viana et Jean II d'Aragon, continue à se scinder de plus belle, de façon ou de plus affreux plutôt, pour mieux employer les termes, et de façon dramatique pour les Gramont ou pour les Beaumont, les Agramonteses et les Beamonteses. Disons plus facilement les Gramont et les Beaumont. Les Gramont, princes du Nord, grands nobles du Nord. Les Beaumont, plutôt de la région de Estelia, du centre et du sud. Mais je vous l'ai dit, on ne peut pas vraiment fixer par la géographie ces clans navarrais. C'est véritablement une guerre civile qui est au fond une suite de règlements de comptes, de clocher à clocher. La Castille, très intéressée, regarde cette guerre civile, les fois Béarn aussi, les Aragonais, le roi de France, par le soutien tantôt soutien des Beaumont, tantôt refus des Beaumont, tantôt soutien des Gramont, tantôt refus des Gramont. On peut ainsi profiter d'une alliance d'un seigneur ou d'un autre et donc annexer ceci, cela. Dès 1463, au cours d'un traité qui, bien sûr, a été refusé par la Navarre, mais qui est une réalité, la Castille annexe tout l'ouest de la Navarre, toute la région d'Estelia, toute la mérindade d'Estelia, toute la voie qui, d'Estelia à Logroño, donc par Viana, Los Arcos et Viana, la Sonsierra, permet l'entrée en Castille, donc région stratégique, doigt de gant, avancée navarraise au cœur des terres castillanes, entre la Nava et la Rioja castillane, et c'est déjà une annexion de fait, remise en cause, reprise, mais une annexion de fait dès 1463. De son côté, le prince de Beaumont prend quelques châtelnies dans le centre et se déclare indépendant, maître et seigneur, avec de temps en temps aussi le titre royal à la tête de ses petites seigneuries. Le roi d'Aragon, Jean II, qui ne meurt qu'en 1479 et qui est le père de Ferdinand le Catholique, en prend aussi sur la frontière orientale, justement dans les alentours du château de Xavier. Et la ville de Tudela, qui est tout à fait dans le sud, sur l'Èbre, est très souvent occupée par les troupes aragonaises. Et dans le nord, les fois Béarn en profitent aussi pour occuper le plus souvent possible, pas de façon définitive, mais enfin, ils sont là, ils sont tout près. Tout près, Saint-Palais est en face de Sauveterre de Béarn. Vous connaissez mieux que moi ou comme moi les routes et les chemins qui sont les chemins tout à fait voisins. Donc, on n'a qu'à prendre, on n'a qu'à y aller. Et c'est ainsi que, peu à peu, ce très petit royaume de Navarre est occupé par les uns et les autres. Le Gaston de Foix Béarn et Léonore ont eu un fils, Gaston, qui a épousé une princesse de France. Ce Gaston, fils de Gaston IV, se fait tuer dans un tournoi dans le Val-de-Loire, et il a deux très jeunes enfants qui, l'un après l'autre, sont nommés roi de Navarre à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Un premier petit enfant, François Phébus, qui est roi à 5 ou 6 ans et qui meurt à une quinzaine d'années, sans doute empoisonné, on a dit tuberculeux, mais enfin, bon, point d'interrogation. Et la sœur de François Phébus, Catherine, qui, sur les ordres de Louis XI avant sa mort, avant 1483, et surtout, donc, par Anne de Beaujeu, la fille de Louis XI, qui est une remarquable régente de France, avec son mari Pierre de Beaujeu pour le jeune Charles VIII, et qui suit parfaitement la politique paternelle à partir de 1483, Catherine, donc, de Navarre et de Foix Béarn, est mariée à un très grand seigneur des Landes qui tient vraiment toutes les régions de l'Aquitaine, qui est Jean d'Albret, fils d'Alain le Grand, qui lui-même a une très forte politique dans le royaume de France. Et c'est une façon, par ce mariage, pour les rois de France, de coiffer complètement cette politique navarraise, vous voyez, Catherine et Jean. Catherine et Jean défendent leur royaume tant qu'ils le peuvent, mais qui est déjà mangé de tous les côtés. Ils ont toujours cette cour royale. Ils vont de temps en temps à Pamplune, mais ils ont également Pau. Ils vivent beaucoup plus à Pau. Ils sont vicomte de Béarn, il vive à Pau ou à Foix, ils sont comtes de Foix, ou alors quelque part du côté de l'Aquitaine, car les Albrets ont de très vastes possessions dans toute l'Aquitaine, et puis très loin vers le nord aussi. Donc ils font des efforts pour aller en Navarre. Il y a d'ailleurs des entrées royales telles qu'on les rêve et telles qu'on les lit de façon magnifique dans les entrées de Navarre. Ils ont donc les Navarrais à leur service, dont Juan de Raso, qui est leur ambassadeur. Ils luttent comme ils le peuvent. Il se trouve qu'une cousine de Jean d'Albret, Charlotte, a épousé, de Jean d'Albret, a épousé César Borgia, si bien que César Borgia, qui n'a rien d'autre à faire et qui court après toutes les aventures et qui a suivi toutes les carrières, vient se battre pour son beau-frère et il se fait tuer à Viana en 1506, et il est enterré, il est toujours à Viana. Vous voyez donc César Borgia, l'entrecroisement de toutes les politiques, mais c'est la fin tout de même, on peut dire, le coup de balai terminal en 1512, après déjà donc des décennies de conquêtes, petit à petit, malgré tous les efforts donc des Navarrais et de toutes les puissances. Voilà, c'est la prise entre juillet et octobre 1512, de façon extrêmement rapide. Ferdinand le Catholique achève cette conquête. Étant veuf de Isabelle de Castille en 1504, il avait épousé une cousine de des Foix Béarn et Navarre, Germaine de Foix, qui aurait pu lui donner un héritage, tout au moins une prétention à hériter de la Navarre. C'est un ménage qui n'a pas marché, mais enfin, peu importe, ça n'est pas notre sujet. Et c'est ainsi qu'il tient absolument, c'est son idée, il veut la conquête de la Navarre. Et c'est ainsi que Ferdinand de Tolède, qui est duc d'Albe, qui est un très grand militaire, en 3 mois, conquiert toute la Navarre ou tout ce qui reste de la Navarre du côté espagnol. On ne touche pas à la province septentrionale. Jean d'Albret et Catherine ont eu le temps de se réfugier à Saint-Palais, qui devient la capitale de la Navarre, promotion sans faste et sans prestige de Saint-Palais dans les années 1512. Oui, Jeanne d'Albret, leur petite fille, y a résidé, mais enfin bon, c'en était fini de la Navarre. Et c'est ainsi que le roi de Castille et d'Aragon, etc., prend le titre supplémentaire et de roi de Navarre à partir de 1512. Les Navarrais ont beaucoup résisté. 1516, ils se sont fait battre dans le Val de Bastane. Et Miguel et Juan, les frères aînés de Francisco, donc, sont complètement vaincus. Le château de Xavier est considéré comme un nid de rebelles à l'occupation castillane et à la conquête qui est de 1512. Le château est démantelé. Il a été très vite reconstruit à plusieurs reprises. Donc, château démantelé. Et la noblesse navarraise est priée d'entrer dans le rang castillan, mais le fils de Jean et de Catherine d'Albret, de Navarre, de Foix, Béarn, etc., Henri d'Albret, a essayé la reconquête du royaume en 1521. Il a repris Pamplune, il a repris Tudela. C'est donc, Monseigneur l'a rappelé tout à l'heure, dans le second siège de Pamplune de 1521 par les armées castillanes pour reprendre la ville qui venait de se donner à Henri d'Albret, disons le roi légitime, donc de reprendre cette capitale. C'est dans ce siège que Ignace de Loyola se fait blesser et entre dans la vie religieuse. Les Loyola, qui étaient eux-mêmes à la tête d'un très grand lignage de parientes mayores dans le Guipuscoa et qui étaient des Gamboa, qui étaient alliés depuis très longtemps aux Agramontes en Navarre. Et les Raso étaient aussi des Agramontes. Et je pense que la famille de Raso et la famille de Loyola se connaissaient déjà, puisqu'ils étaient de la même option des Agramontes et des Gamboinos. Voilà donc dans ces luttes de querelles de clans que l'on voit dans tout le Pays basque d'un bout à l'autre dans ces époques troublées. Et donc c'est ainsi que François le dernier, à tout jeune, 15 ans, 20 ans, n'ayant plus rien à faire en Navarre, prenons-le ainsi, parce qu'il a donc une mission ailleurs, va faire des études à Paris et donc réussit en dehors du ciel navarrais. Second volet de cette brève causerie, dans cette Navarre qui est donc qui a son histoire, qui a son histoire militaire et administrative, et où les nobles navarrais jouent leur rôle par la résistance autant que par le service du roi, Dieu est très installé en Navarre, et on peut parfaitement servir Dieu autant que servir le roi dans la Navarre traditionnelle. On ne peut guère y faire de grandes études. Vous voyez que le père de François-Xavier est diplômé et docteur en droit de l'université de Bologne. Comme tout ce qui compte de juriste en Occident de l'époque médiévale, quand on veut vraiment être un juriste tel que on le rêve, on va faire des études à Bologne. C'est tout à fait normal. Et Pedro de Sadal avait été aussi celui qui est mort dans les années 1460 en laissant l'héritage à sa fille. Il était également donc docteur en droit. Donc docteur à Bologne. Mais tout au long de l'époque médiévale, pour de brèves études, des études en arts libéraux, quelquefois en théologie, oui, bien sûr, en théologie, les chanoines de la cathédrale, les évêques, les abbés des monastères, ou surtout les études de droit, on va à Toulouse. On va très normalement à Toulouse, de temps en temps à Paris. Certes, il y a à Paris, depuis le début du XIVe siècle, un collège de Navarre pour accueillir les étudiants, mais le collège de Navarre est surtout ouvert aux Champenois, car c'était la femme de Philippe le Bel, qui était Jeanne de Navarre et comtesse de Champagne, l'héritière donc du comté de Champagne et du royaume de Navarre, qui avait fondé ce collège de Navarre à Paris. Elle a porté l'héritage de la Navarre et de la Champagne au roi de France, son mari. Et ce collège de Navarre est plutôt le collège des Champenois. Très très rares sont les Navarrais qui vont dans le collège de Navarre à Paris. D'autant plus qu'en 1418, au cours d'une guerre civile de Paris, le collège de Navarre est complètement ravagé par les Bourguignons, car il était plutôt d'obédience Armagnac, les Armagnacs et les Bourguignons. Donc il n'est plus grand-chose au XVe siècle. Il n'a jamais été pour les Navarrais, ou très peu. Il n'est plus très haut, donc en relief. On fait des études ailleurs. Études à Toulouse, études pratiquement jamais en Espagne. Les Navarrais n'envoient pas leurs Navarrais en Castille ni en Aragon, ou alors dans les grandes villes italiennes, vous voyez, à Bologne. Mais la Navarre a quand même quelques petites écoles, et on dit dans la tradition que François-Xavier a d'abord été formé dans l'école monastique de Leyre, puis dans l'école de Pamplune, qui en effet est une école de grammaire, où les princes de la famille royale, s'ils veulent faire carrière dans l'église, dans l'administration, sont formés jusque dans les années 1430. Donc école de grammaire, mais qui ne va pas très loin. On sort donc de la Navarre pour de grandes études. La Navarre eut pourtant de remarquables bibliothèques dans l'an 1000, Leyre, Albelda, qui se trouve au sud de la Navarre, Narrera, qui est devenue castillane et qui est en Rioja castillane, mais qui fut navarraise. Voilà des centres de l'an 1000 qui avaient des manuscrits, qui avaient des codex, qui avaient donc des ouvrages tout à fait remarquables. Bibliothèques dispersées, bibliothèques ventilées, on n'en parle plus au XVe siècle, mais donc ce milieu culturel était à évoquer. Il faut sortir de la Navarre pour faire de grandes études. Et en effet, François-Xavier va à Paris, il va au collège de Santa Barbara, qui est le collège qui reçoit les Espagnols en général, et c'est là d'ailleurs qu'il rencontre donc Ignace de Loyola de façon définitive, qui lui aussi fait des études à Paris et qui lui aussi est abrité au cours de ses études dans le collège de Santa Barbara. La Navarre est plutôt donc une Navarre de monastère, une Navarre d'un grand évêché, l'évêché de Pamplune, où les évêques naturellement sont des prélats politiques, comme ils le sont tous à l'époque médiévale. Et l'évêque Nicolas de Echavarri s'est fait assassiner en 1467 au moment de la guerre civile entre les Gramont et les Beaumont. Il soutenait les Gramont et il a été massacré par les Beaumont. Vous voyez, donc très engagé jusqu'à se faire assassiner donc dans des querelles militaires, car les évêques peuvent parfaitement conduire des armées comme les autres, ou tout au moins résister par les armes autant que par la parole et par la vie spirituelle. C'est ainsi donc à l'époque médiévale et tout le monde en est conscient. Donc, mais surtout, grand monastère de Leyre, monastère d'Irachi, les vieux monastères bénédictins qui sont du IXe siècle. Monastère cistercien, tout à fait remarquable, monastère de la Oliva, monastère d'Iransu. Et tout au sud de la Navarre, le monastère de Fitero, dont les Navarrais sont très fiers, car ce sont des cisterciens de Fitero qui sont allés, au moment des croisades du XIIe siècle, fonder l'ordre de Calatrava, donc sauver Calatrava, qui était prise par les Almohades et qui était une commanderie abandonnée par les Templiers. Et ils l'ont transformée dans cet ordre militaire, à la fois combattant et missionnaire de Calatrava, qui est donc une création, vous voyez, des cisterciens de Fitero et qui est toujours dans la visite de Morimont, qui est donc la maison mère par un biais aquitain, par l'escaladieu de Fitero, cette fondation cistercienne, mère en fille, ainsi les fondations cisterciennes. Des couvents des ordres mendiants très très actifs dans les villes. Les quatre ordres mendiants sont représentés dans la Navarre, les franciscains, les dominicains, les carmes, les augustins et augustines, les variantes féminines de ces ordres, les branches féminines. Donc, dans toutes les villes, nous avons de ces ordres mendiants tout à fait remarquables. La Navarre n'a jamais eu les hiéronymites qui se développent au XIVe siècle, qui sont... l'ordre des Hiéronymites, qui est une création castillane, qui est de 1373, les ermites de Saint-Jérôme, qui fondent des ordres, fondent des couvents d'ermites très intellectuels, insistant beaucoup sur les exercices spirituels, sur la recherche personnelle, sur le chant choral aussi, mais vraiment cloîtrés. Et qui ne reçoivent pas d'enfants pour leur éducation, qui ne sortent pas non plus de leur cloître, qui ne sont pas missionnaires en dehors de leur maison. La maison de Lupiana, la maison de la Sisla, la maison de Juste, qui est fondée en 1408. Beaucoup plus tard, 16e siècle, viendra l'Escorial, des Hiéronymites. Donc, ordre castillan et portugais. Mais qui n'est pas connu en Navarre. Il manque peut-être en Navarre un ordre d'enseignants pour former les jeunes, donnant des bonnes études, pour former les enfants, véritables écoles, véritables collèges, et surtout aussi un ordre missionnaire pour prêcher les populations, prêcher les gens sur place, la mission chrétienne au milieu des chrétiens. Les chrétiens en ont toujours besoin, les autres aussi. Les juifs et les musulmans que l'on trouve en Navarre. Les juifs jusqu'en 1498, les belles communautés juives navarraises, mais qui ont été chassées en 1498, chassées ou plutôt massivement converties au christianisme, car ils ne pouvaient plus partir ailleurs. On sait, on en a déjà parlé les années précédentes, que beaucoup d'entre eux sont venus à Bayonne, par Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Peyrorade, etc. Les fameuses arrivées donc, des maranes et des conversos qui se sont installés dans nos communautés, donc les juifs espagnols, mais on ne peut pas savoir qui est navarrais, qui est castillan, qui est aragonais dans les nouveaux noms de Alvarez, Pérez, Rodriguez, etc., qui s'installent dans l'Aquitaine à partir de 1550, l'accueil de Henri II. Donc les juifs, les musulmans qui sont toujours là, mais une poignée, et très très petite communauté de musulmans autour de Tudela, ils y sont jusqu'au début du XVIe siècle, justement, et les Navarrais les connaissent, et ils sont forcés à la conversion au début du XVIe siècle, ils deviennent les Morisques, ils sont expulsés en 1609, ils sont d'ailleurs venus très très nombreux dans les régions, dans nos régions, les Morisques, qui ont donné le quartier Morisco, par exemple, à Biarritz, vous voyez donc tous ces quartiers. Voilà, il y a des gens d'autres religions, d'autres religions que l'on pourrait toujours convertir, mais il y en a de moins en moins. Et personne ne songe à leur imposer, dans les années 1490, 1500, 1510, une autre religion. Il vaut mieux donc essayer d'autres lieux, d'autres horizons. Les horizons, c'est l'Orient, et nous allons en parler tout de suite, bien sûr, et je vais très vite me taire. L'Orient qui a été... très bien évangélisé, au XIIIe siècle. Saint Louis a patronné la mission franciscaine et dominicaine en Chine. Saint Louis, bien sûr, les Italiens aussi, le roi de Hongrie, les Allemands, les Anglais, surtout les franciscains et les dominicains, donc aidés, vous voyez, par ces puissances occidentales qui pénètrent peu à peu en Chine dans le courant du XIIIe siècle, au temps où la Grande Asie était tenue par les Mongols, qui ont accueilli les bras ouverts ces missionnaires, les Mongols qui étaient chamanistes, païens de toute observance, écoutant un peu n'importe qui, ouverts à tout, avec de très fortes communautés nestoriennes, chrétiens nestoriens qui sont d'une hérésie christologique depuis le concile d'Éphèse de 431, comme vous le savez tous, et qui voient deux personnalités dans le Christ, l'humaine et la divine, qui ne se juxtaposent pas, qui se juxtaposent mais qui ne se rassemblent pas. Donc des nestoriens très importants, jusque dans la famille impériale mongole, où le Khan Sartak, qui est nestorien, dans les années 1260, a accueilli, par exemple, Guillaume de Rubruck. Donc des nestoriens dans toute l'Asie qui font arriver ces missionnaires occidentaux et qui les accueillent très bien. Les marchands italiens, bien sûr, on pense aux polos, mais les polos ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Les marchands italiens et tous les autres. Il y a des communautés chrétiennes dans toute l'Asie depuis les années 1240-45, 1250. André de Longjumeau, Guillaume de Rubruck, Jean de Montecorvino, qui devient archevêque de Cambalic, c'est-à-dire de Pékin, et qui a 5 évêchés suffragants, car il y a une véritable hiérarchie chrétienne à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, avec un archevêque de Pékin, 5 évêchés suffragants. Voilà donc une grande structure, une grande présence chrétienne en Chine. Mais 1368, révolution des Ming en Chine qui chasse les Mongols, et dans les mêmes années, dans la bordure méridionale de cet empire mongol, un empire turc tenu par Timurlung, c'est-à-dire Tamerlan, qui est entré dans l'islam et qui massacre tout ce qui n'est pas de l'islam, les fameuses pyramides de tête coupée de Tamerlan, voilà, et qui sont évidemment le dernier coup de balai aussi de tous les chrétiens asiatiques. Tout est à refaire en Chine, on sait qu'on y a réussi, il y eut même un prêtre chinois, nestorien, Rabban Soma, qui est venu en France visiter le roi Philippe le Bel au début du XIVe siècle et le duc d'Aquitaine, roi d'Angleterre, et le pape à Avignon. Donc, tout ce monde que l'on a connu, on sait que ça a pu réussir, mais que tout est à refaire, que tout est arrêté. Et c'est ainsi que quelqu'un dont la famille a toujours servi le roi, dont le château a été démoli, qui n'a pas pu faire de belles études en Navarre, mais qui sait que l'on pourrait ouvrir des collèges d'enseignement, et qui sait surtout que l'on peut aller, et si on y met évidemment toute son énergie, on y arrivera, enseigner la parole de Dieu en Chine et ailleurs en Extrême-Orient au passage, qu'il y a des marins portugais, des marins italiens qui ont des comptoirs que l'on peut visiter au passage et qui peuvent recevoir, les jalons sont tout à fait établis, on peut recommencer. C'est ainsi que, tout naturellement, François Xavier, donnons-lui le nom de son château, donc, fait des études à Paris, forme d'abord en 1534 le vœu de Montmartre avec Ignace de Loyola, le vœu d'aller en pèlerinage à Jérusalem pour évangéliser les Turcs, et puis par la suite, donc, le reste de sa carrière. Je vous remercie.
La famille de Xavier dans la Navarre médiévale venait de suivre une conférence de Béatrice Leroy, professeure à l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Conférence enregistrée le 19 avril 2006 dans le cadre du colloque du 5e centenaire de la naissance de Saint-François-Xavier 1506-1552.